Vous allez enfin pouvoir poser à Michel Onfray des questions qui vous taraudent, Xavier.
Oui, je suis ravi de pouvoir vous poser ce matin les questions que je me suis posées pendant tout le temps où vous avez eu un compte Twitter. Je parle au passé, car en novembre 2015, vous avez fermé ce compte en donnant vos raisons au point. Je vous cite, j'en ai assez que mes tweets soient plus importants que mes livres. J'ai pris la décision de fermer mon compte Twitter. Je veux retourner dans mon bureau, commenter les commentaires, ça ne m'intéresse pas. J'avoue avoir conçu à l'époque une forme de soulagement, tant votre compte Twitter était un objet étrange. Comme on l'avait recensé à l'époque avec Rémi Noyon, on y trouvait toutes sortes de choses. Des commentaires de l'actualité. Mélanie Laurent a posé nue avec un tourteau pour une campagne contre la surpêche. Elle est donc bien écologiste. Tweet du 27 février 2015. On y trouvait des vues sur la politique. Sarkozy, une voix pour le FN, c'est une voix pour la gauche. Il n'a même pas deux neurones dont il souhaite qu'on crédite, 5 mai 2015. Vous avez aussi vos cibles favorites, par exemple Bernard-Henri Lévy. BHL dans le point, la paix et le principe de l'islam, sacré Bernard, 16 mai 2013. Et au-delà de Bernard-Henri Lévy, des adversaires de plus grande importance, avec les nouveaux programmes d'histoire, islam obligatoire, lumière facultative, Michel Houellebecq sourit dans son coin, tweet du 4 mai 2015. Tout ça avec le recours à des formules frappantes, par exemple l'usage de l'analogie du bas-empire pour désigner notre contemporain. Des nouvelles du bas-empire, Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld, a empoché près de 3 millions d'euros en 2014, tweet du 3 avril 2015. La référence au bas-empire n'était pas un compliment pour l'époque. Et puis il y avait des blagues. Une par exemple, à 50 ans, Rocco Siffredi a annoncé vouloir se retirer progressivement, sic. C'était tweet du 18 mars 2015. D'où les questions que je me pose, Michel Onfray. Un compte Twitter révèle-t-il quelque chose de la personne qui le tient? Vous qui pensez que les philosophes ont aussi un corps, une vie, des mobiles parfois triviaux, on ne peut que vous retourner la question. En l'occurrence, que penser de ces commentaires de l'actualité un peu à l'emporte-pièce? Pas toujours fondé, pensez vite et qui farcissait votre compte. Et surtout, que pensez du fait que vous aviez envie, en tweetant, d'offrir ces commentaires au monde? D'où une autre question. Avez-vous été piégé par le médium, ce médium si particulier qu'est Twitter, qui invite, de par ses fonctionnalités techniques, non seulement à la brièveté, mais aussi à l'immédiateté, à la polémique, au trait d'esprit? Avez-vous donc été piégé par ce médium, ou par vous-même, piégé par votre jubilation à constater l'effet immédiat de vos propos, par l'excitation du petit combat rhétorique auquel invite Twitter et des combats sur Twitter, vous en avez eu? Ce qui m'amène à une autre question. N'y aurait-il pas eu de Twitter un autre usage possible? Les fonctionnalités techniques et modes de diffusion ne sont que des contraintes, elles peuvent être contournées, dépassées, déjouées, et je me suis donc demandé pendant tout ce temps comment cela se faisait-il qu'un philosophe comme vous aviez pu avoir de ce médium un usage aussi premier degré? Au-delà se pose une dernière question qui me semble centrale. Quelle place pour cette production dans une œuvre? Je veux dire par là, certains de ces tweets ont aujourd'hui disparu, mais vous savez, comme moi, que l'informatique n'oublie jamais rien. Ces tweets sont quelque part. Que faudra-t-il faire le jour où on se penchera depuis la postérité sur votre travail? Faudra-t-il en faire l'édition, comme on l'a fait des fragments de Lichtenberg? Pas certain. Faudra-t-il considérer ces tweets comme des bribes de conversation sans intérêt et les oublier? Mais ce ne serait pas rendre grâce au fait qu'ils ont été écrits d'emblée pour être lus. Ce serait presque malhonnête donc de les oublier. Je pense que ces questions ne sont pas des fausses questions. Y répondre, c'est statuer sur la nature même de ce que nous écrivons tous dans les réseaux sociaux. J'en appelle donc à votre expérience et à votre réflexion, Michel Onfray, pour m'aider à y répondre.
Vous êtes un peu un archiviste du net maintenant, Xavier Delaporte.
Mais le net s'archive lui-même.
Vous allez regarder. Non,
je ne regrette rien de ce que
Michel
j'ai écrit.
Onfray.
Rien de ce que j'ai écrit, vraiment. La différence, c'est que vous donnez votre avis sur tout et vous êtes payé pour ça avec mon argent et avec l'argent des gens qui nous écoutent, puisque c'est le service public qui vous entretient. Donc vous avez le droit d'avoir des avis, de les donner, mais de les donner moins directement que moi. C'est-à-dire toutes vos informations sont évidemment extrêmement biaisées, c'est-à-dire que régulièrement on nous fait l'éloge des mêmes contenus. Les gens qui auront écouté le journal aujourd'hui auront vu pour qui il faut voter, les gens qui sont des gens bien, puis les gens qui ne sont pas des gens bien, et de manière internationale, où est le bien, où est le mal, etc. Vous avez le droit, et vous avez même le droit d'être payé par l'argent public pour faire ce genre de choses-là. Moi, je ne suis pas payé, je le faisais gratuitement, bénévolement, et vous n'aurez jamais vu une seule photo de mes menus, de mes voyages, de mes vacances, de mes bronzages, ou ce genre de choses. Donc j'ai fait effectivement un usage critique, critique, politique aussi, je veux bien, sur le sens même étymologique, c'est-à-dire une espèce d'avis de lecteur dans la cité. Alors évidemment, vous prélevez, vous avez bien raison, ça, c'est, vous avez une thèse, elle est politique, elle est engagée, vous avez absolument besoin de la défendre.
Donc ah, j'ai
allez,
des questions surtout.
Vous allez chercher, je suis en train de vous y répondre justement, vous allez chercher ce qui illustre absolument vos choses, vous trouvez que mon humour n'est pas drôle, d'accord.
Ah, j'ai pas dit ça.
Non mais si, vous avez fait savoir que le retrait progressif de Rocco Siffredi ne pouvait pas être une information drôle, vous avez le droit. Moi je trouve que l'humour du service public n'est pas de l'humour, que c'est souvent de l'idéologie. Je trouve qu'on peut faire ce genre de tweet parce que le principe du tweet, c'est effectivement une parole et je suis de ceux qui pensent que l'œuvre d'un philosophe, c'est pas seulement ce qu'il écrit, c'est aussi ce qu'il dit, mais c'est aussi ce qu'il vit. la cohérence, etc. Donc moi, je suis preneur pour une édition des œuvres complètes de mes tweets que vous pourriez préfacer, annoter et qu'on pourrait relier en papier bible en disant que j'étais un sale con en montant, mais que finalement, peut-être, un peu, l'histoire m'a donné de temps en temps raison et qu'on avait le droit à de l'humour pas drôle, puisque vous, vous avez le droit à de l'humour pas drôle et qu'en plus, vous êtes même payé pour faire de l'humour pas drôle. Moi, je fais comme vous, de l'humour pas drôle.
Là, il ne faudrait pas amalgamer l'ensemble du service public, Michel Onfray.
Non, mais on peut pas faire d'autres personnes. Je réponds juste à monsieur, mais on peut prendre d'autres individus, je vous donnerai des noms, d'autres exemples.
Il est là, donc il peut répondre lui-même. Mais il y a a priori eu chez vous une manière finalement de vous rendre compte que votre place n'était pas sur Twitter, puisque vous avez décidé d'en partir.
Oui, parce que justement, ça devenait plus important que ce que j'écrivais, que les livres sur lesquels je travaillais. D'un seul coup, on fait un tweet pour se marrer, parce que j'ose espérer qu'il vous arrive de rire dans la vie et que vous avez un peu le sens de l'humour. Donc effectivement, quand j'entends que des gens disent sérieusement que Rocco Siffredi se retire, délicatement, progressivement, bon ben voilà.
Michel Onfray, au-delà de ça, vous vous êtes dit que ça n'était pas votre place, puisque vous avez
cessé de tweeter. Non, c'est pas ça. Moi, je persiste à croire qu'on peut penser en 140 signes. La Rochefoucauld le faisait, enfin les moralistes le faisaient et le tweet pour moi n'est pas une mauvaise chose. Je pense simplement que...
Non mais le médium c'était Twitter qui vous dérangeait et ses réactions, c'était pas la forme des 140 caractères.
C'est Duchamp qui dit que c'est le regardeur qui fait le tableau. Il y a un moment donné...
Oui mais McLuhan disait l'inverse donc...
Oui mais moi je pense que les gens ne pouvaient pas tous comprendre ce que je disais parce qu'il y avait parfois un livre comme celui-ci...
C'est ça le problème du médium.
Oui. Mais avec ce que je dis aussi tout de suite, c'est-à-dire vous me posez des questions sur des choses de mon livre et je peux dès aujourd'hui, dès l'apparition du livre, dire sur quel sujet on ne m'interrogera jamais, sur quel sujet on m'interrogera systématiquement. Donc ça fait partie du jeu. Il y a juste un moment donné où on se dit je ne peux plus continuer à m'adresser à des gens qui éventuellement prennent les choses au premier degré, je parle même pas de l'humour là pour le coup, mais de la politique, puisque c'était ce fameux tweet du genre, enfin pas du genre très précisément, nous récoltons nationalement ce que nous avons semé internationalement, que je peux défendre. On peut même écrire un livre.
D'ailleurs, nous en avons parlé tout à l'heure.
Absolument. Sauf que des gens ont compris que je justifiais les actes terroristes. On a même écrit, Raïski a écrit dans Atlantico, le titre c'était « On ferait crache sur les morts du Bataclan ». Alors je me suis dit, si effectivement, même les journalistes, ou surtout les journalistes, ne sont pas capables de comprendre qu'on peut avoir une thèse qui n'est pas forcément la leur, sans pour autant cracher sur les morts du Bataclan, je me suis dit, j'arrête, parce que je faisais un tweet éventuellement plaisant, et 10 minutes après, j'avais une rédaction qui me demandait si je voulais pas intervenir sur ce sujet-là, etc. Parce que les journalistes sont plus souvent accrochés au compte Twitter des gens qu'au livre, parce que lire un livre de 650 pages, ça prend plus de temps que lire un tweet de 140 signes, et on est payé aussi cher.
Justement, Michel Onfray, en peu de temps, hélas, sur quel sujet auriez-vous aimé être interrogé sur votre livre, sur lequel je ne vous ai pas interrogé ?
Ah non, je dis pas que j'aimerais forcément être interrogé sur tel sujet plutôt qu'un autre, mais je sais très bien que depuis que je parle de ce livre, on me pose pas de questions sur les procès de sorcières, par exemple, ou sur le tribunal de l'Inquisition, les modalités.
C'est un livre assez imposant. Il y avait un lien, par exemple, entre l'Inquisition et la Shoah que vous faisiez, qui a été commenté. J'ai donc décidé que c'était pas la peine d'y revenir.
J'entends bien. Mais je dis que je sais très précisément sur 20 siècles d'histoire quels sont les sujets qui sont susceptibles de faire polémique, buzz, etc. Et ce sont plutôt les sujets sur lesquels on va m'interroger. Mais je ne suis pas dupe de tout ça.